Merci Sophie Guédon, organisatrice de cette seconde édition du sommet Réussir au féminin. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir immense d'accueillir le communicateur hors pair québécois Alain Sanson. Alain Sanson est conférencier, motivateur, auteur, formateur en management et spécialiste du mieux-être au travail. Depuis 20 ans, il aide des organisations à relever des défis auxquels elles font face. Que ce soit devant un groupe de 10 ou de 1000 personnes, il sait aller à l'essentiel tout en soutenant l'intérêt de son auditoire grâce à la base scientifique de ses propos et un humour pince sans rire très efficace. C'est également un auteur prolifique, couronné à de multiples reprises, qui a écrit pas moins de 80 ouvrages, dont les plus connus sont « La vie est injuste, tant pis », soit « Où Bedon reste chez vous ». Il va nous parler aujourd'hui de la résilience et nous donner 10 clés pour développer notre capacité à rebondir. Bienvenue à vous Alain et merci d'avoir accepté de faire cette conférence.
C'est un plaisir.
D'accord. Alors, je vais vous demander de préciser un petit peu ce que ça veut dire « soit ou Bedon reste chez vous ».
En fait, c'est « soit positif ».
Ah, pardon! D'accord! J'avais loupé un terme.
Et c'est donc, sur le climat de travail et l'importance d'un climat de travail positif, parce que dans le fond, on passe tellement de temps au boulot que si ça draine notre énergie, c'est tout le reste de notre vie qui s'en trouve entamé. Alors, « Sois positif, Bedon reste chez vous », c'est un livre qui permet aux gens de découvrir comment s'énergiser, comment dynamiser les autres et comment s'éloigner des vampires énergivores qui pullulent au travail.
D'accord. Est-ce que ça va de pair, enfin, c'est dans le même esprit que « La vie est injuste, tant pis » ?
Absolument, parce que « La vie est injuste, tant pis », en fait, c'est un livre sur la résilience, c'est un livre qui, en fait, La vie est juste tant pis, si j'ai eu l'envie d'écrire ça, c'est simplement que j'ai découvert à un moment donné dans ma vie que les gens ne réagissent pas du tout de la même façon à ce qui leur arrive. Par exemple, face à un drame. En mars 2001, ici à Québec, un policier se suicidait après avoir englouti dans une machine vidéo poker le dernier dollar d'une somme de 1 200 $ destinée à la Fondation Rêve d'enfants. On lui avait confié la somme, tout ce qu'il avait à faire, c'est l'apporter au bureau de la Fondation, mais chemin faisant, il s'est dit non, je vais faire plus pour eux, je vais le faire fructifier. Juste avant de se tirer une balle dans le cœur, il a écrit une lettre disant, quand j'étais petit, je pensais que la vie c'était, je pensais que le jeu c'était drôle, je réalise que ça ne l'était pas, excusez-moi. Au moment de son décès, il avait l'impression que sa vie ne valait pas 1 200 $. Face à un drame toujours, le 22 juillet 1972 aux États-Unis, un Américain du nom de John Callahan, cet après-midi-là, était complètement sous. En fait, c'était l'état habituel de John à l'époque. Je dirais pas qu'il était sous tout le temps, mais disons à partir de 10 heures le matin. Mais comme c'était un ivrogne responsable, il a dit à son ami Dexter, il a dit « Écoute Dexter, j'ai un peu trop bu ». Est-ce que tu veux conduire à ma place? Et Dexter, tout de suite, a répondu, mais très certainement. Parce que oui, Dexter était également complètement sous. Alors, ils partent sur l'autoroute, ils voient un petit bar, ils disent, arrêtons de prendre une dernière consommation. Ils prennent leur consommation, et au moment de repartir, l'erreur étant humaine, Dexter a confondu la sortie vers l'autoroute et un pylône électrique. L'accident a été terrible. En fait, 3 semaines plus tard, John se réveille et une gentille infirmière lui dit « Ne vous en faites pas, John, Dexter est en pleine forme. » Là-dessus, il sourit un petit peu puis il se rendort. 3 semaines plus tard, il se réveille à nouveau et la gentille infirmière peut continuer avec « Vous, par contre, ça va pas. Hein? Vous êtes maintenant tétraplégique. Pour le reste de vos jours, ça va être la chaise roulante, un sac de colostomie. » Ça va être, vous allez être dépendant des autres. Sur le coup, ça ne dérange pas, il se rendort. Faut dire qu'il s'amorphine. Mais un mois et demi plus tard, il est appelé à quitter l'hôpital. Et à ce moment-là, il en vient à se demander ce qu'il va faire du reste de ses jours. Et il dit, dans le fond, je pourrais continuer comme avant, Dexter a encore son permis. Mais d'un autre côté, et là, il se rappelle que lui, sa passion enfantine, c'était le dessin. Alors, il dit, OK, je vais devenir dessinateur professionnel. Et il rentre chez lui. Naturellement, il est tétraplégique. Tout ce qu'il peut faire, c'est mettre un crayon entre deux doigts, agripper la main avec la main qu'il lui reste et y entreprendre de se dessiner une carrière. Et aujourd'hui, ses dessins sont publiés un petit peu partout dans le monde, dans des magazines aussi prestigieux que Penthouse, que Playboy. C'est un conférencier recherché. Il a même publié et fondé un studio de création de dessins animés, des dessins animés présentés partout dans le monde, peut-être même qu'il y en a distribué en France. C'est Quads, par exemple, un de ces dessins animés qui ont été les plus publiés. Bref, face à un drame, certains se reprennent en main, tandis que d'autres, ben, partent à la dérive. C'est la même chose face à un décès. En 1991, à Saint-Séphore, l'endroit où j'habitais à l'époque, une dame, Corinne, perd son époux. Son époux de 30 ans fait un arrêt cardio-respiratoire et décède. Et on est surpris de voir à quel point Corinne, dans les semaines qui suivent, reste stoïque. Même au salon funéraire. Hey, le salon funéraire dure 3 jours. Aucun épanchement, aucune larme. Elle est fière. Et en quittant le salon funéraire, elle n'apporte avec elle qu'une seule chose. Une plaque qui avait accompagné un arrangement floral. Une plaque sur laquelle c'était écrit « Je quitte ce que j'aime pour retrouver ce que j'ai aimé. » Corinne rentre chez elle et pendant les semaines qui suivent, elle va regarder la plaque. Il y en a que c'est la TV, elle, c'est la plaque. Et que va-t-il se passer? 5 mois plus tard, le même jour du mois, elle va décéder du même type de problème qui avait entraîné son époux. Le cerveau humain est fantastique, mais il faut y demander les bonnes choses. En 1992, un petit peu plus tard, Vicky, une jeune étudiante, perd. En fait, elle vient de se faire un bon chum. Et comment détermine-t-on qu'un bon copain est un bon chum à 16 ans? Simplement parce qu'il a une voiture. Et un soir, elle vient visiter et en quittant, ben, il se met à faire un petit peu de vitesse, prend le champ et décède. Et là, on est surpris de voir à quel point Vicky, malgré ça, reste souriante. Elle reste souriante pendant 3 semaines. Mais 3 semaines plus tard, alors que ses parents sont partis jouer aux quilles au salon de la place à Saint-Séphore toujours, elle se suicide. En fait, elle se pend. Elle se pend dans le domicile familial. Et quand les parents reviennent, il y a des petites flèches colorées un petit peu partout dans l'appartement, que c'est comme une chasse au trésor pour retrouver le corps. Et dans la pièce où il y a trop, ben, il y a une chanson de Sardou qui joue, une chanson que vous connaissez peut-être, c'est « Mes chers parents, je pars, je vous aime mais je pars, vous n'aurez plus d'enfants ce soir. » Ça donne le coup à des parents.
J'imagine.
Et effectivement, également des enfants, c'était ma gardienne, voyez-vous. Et pourtant, face au décès aussi, il y en a qui rebondissent. Par exemple, Candy Leitner, en 1980, perd sa fille. Sa fille Carrie est allée assister à une game de softball et après la game, elle se dit « Tiens, je vais aller au party. » Mais pour se rendre au party, elle doit marcher le long d'une route et pendant qu'elle marche, il y a un chauffeur en état d'ébriété qui attrape et qui la tue. Que fait Mme Leitner 3 semaines plus tard? Elle s'associe avec une autre dame qui a perdu une enfant dans les mêmes circonstances et elle fonde un groupement qui s'est appelé MAD. Women Against Drunk Driving, une organisation qui a aujourd'hui 900 chapitres un petit peu partout dans le monde et qui a fait changer les lois. Bref, face à un décès, certains également se reprennent en main, tandis que d'autres ben, partent à la dérive encore une fois. Alors, la raison pour laquelle j'ai écrit « La vie est injuste, tant pis », c'est ça. C'est que on peut penser que la vie est injuste, mais dans le fond, la vie nous frappe tous, tôt ou tard. Et la question n'est pas comment éviter d'être frappé. La question est de comment faire en sorte de rebondir quand ça va arriver. Et la raison d'être de ce livre-là, c'est ça. Comment vous assurer de rebondir? Parce que il y a un mot qui détermine, qui définit ceux qui rebondissent, et ça s'appelle la résilience. Et si on regarde dans les vieux dictionnaires, des dictionnaires qui ont 40 ans et plus, La résilience, à l'époque, n'était pas... En fait, la résilience s'appliquait pas à l'être humain. La résilience, c'était simplement une caractéristique mécanique des métaux. Un métal qui a une faible résilience, si vous le frappez, il éclate en morceaux. Un métal qui a une bonne résilience, si vous le frappez, il va absorber l'impact en changeant brièvement de forme et tranquillement, il revient à sa forme initiale. Et c'est cette caractéristique-là que les spécialistes, que les psychologues ont appliquée à l'être humain, la capacité de revenir. Et on a étudié des personnes résilientes, on a étudié des gens, on a tenté, par exemple, de comprendre pourquoi certains étaient sortis vivants des camps de concentration, tandis que d'autres s'y étaient laissés mourir. Et ce qu'on a découvert, c'est que les gens résilients n'ont pas de gènes spéciaux. Ils ne sont pas nés dans des familles plus aimantes ou moins aimantes. Ils ne vivent pas dans des réseaux plus aidants ou moins aidants. En fait, tout ce qu'il y a, c'est qu'ils ont décidé de ne pas se voir comme des victimes et qu'ils ont développé des habitudes qui leur permettent de rebondir quand arrivent les problèmes. Et ces habitudes-là, ces 10 habitudes-là, forment le cœur du livre « La vie est injuste, tant pis ».
OK. Alors, donc, quelle est la première des habitudes qu'on peut mettre en place pour devenir une personne résiliente?
La première, c'est d'être à l'écoute de ce qu'on ressent. Parce que malheureusement, beaucoup d'entre nous, on a grandi dans des foyers où on nous a coupé, on nous a appris à nous couper de ce qu'on ressentait. Par exemple, imaginons une famille traditionnelle, le papa, la maman et le garçon, qui, par un dimanche après-midi, se promène sur la rue principale en regardant les vitrines des commerces fermés. À un moment donné, le petit garçon tombe, s'érafle un genou, se met à pleurer, mais c'est pas rare qu'un parent va s'approcher de lui, le relever en lui disant « Arrête de pleurer, t'as pas mal ». On décide ça, nous les parents, on décide que cet enfant-là a pas mal. Et qu'est-ce qui se passe s'il nous croit? Il vient d'apprendre à se décrocher de ses émotions. Pourtant, les émotions nous servent. En fait, selon les biologistes évolutionnaires, les émotions nous servent à survivre. Survivre physiquement, survivre socialement. On a besoin de savoir. On a besoin d'être à l'écoute de ce qu'on ressent. D'autant que les émotions sont personnelles. Exemple. Imaginons que c'est l'hiver, il fait froid. Vous êtes à l'extérieur du bureau, vous discutez avec un collègue et à un moment donné, vous voyez une autre collègue qui s'approche de vous. Elle s'approche, elle marche sur le trottoir, elle s'approche, elle marche, puis à un moment donné, elle marche sur un rond de glace, les deux jambes, il lève en l'air, puis elle tombe sur le dos. Bon, ben l'événement est neutre. L'émotion va être personnelle. Peut-être que un d'entre vous va se sentir nerveux, se dire « j'espère que c'est pas fait mal », et peut-être que l'autre va simplement sourire en coin en disant « ben bon, elle a voulu la promotion ». Alors, l'émotion vous renseigne sur ce que vous ressentez. Bref, la première clé de la résilience, c'est la capacité de s'ouvrir à soi, la capacité de savoir ce qu'on ressent à tout moment. Et ceux qui ont de la misère avec ça devraient tenir un journal de bord, devraient vérifier au cours de la journée ce qu'ils ressentent, parce que déjà, le fait de savoir ce qu'on ressent nous permet d'anticiper sur quelle clé de la résilience on va devoir travailler. Par exemple, si vous ressentez régulièrement de la colère, c'est que vous avez peut-être tendance à prendre des choses personnelles. Si vous ressentez régulièrement de la culpabilité, vous auriez peut-être besoin de faire la paix avec le passé. Si vous ressentez régulièrement de la peur, vous nourrissez peut-être des craintes injustifiées. Si vous ressentez régulièrement de la tristesse, ce serait probablement le temps de reprendre le contrôle de votre conseil d'administration. Et si vous ressentez régulièrement de la honte, vous avez peut-être tendance à en mettre trop sur votre dos. Bref, savoir ce qu'on ressent, c'est le point de départ pour devenir plus résilient, parce que nos émotions sont des indices qui nous permettent de découvrir ce qui se passe en nous. La deuxième habitude des personnes résilientes, c'est de prendre le contrôle de leur conseil d'administration. Et qu'est-ce que j'entends par conseil d'administration? Souvent, quand je suis en conférence, je pose trois questions aux gens. je leur dis, un, est-ce qu'il y en a ici qui, à l'occasion, entendent comme une voix dans leur tête, qui leur dit ce qui se passe et qui fait des commentaires sur ce qui se passe pendant la journée? Et souvent, j'en ai 4 ou 5 qui lèvent la main. Ensuite, je pose la question suivante. Est-ce qu'il y en a qui en entendent plus qu'une? Et là, j'ai 8 ou 9 mains qui lèvent. Et ensuite, ben, je réponds aux autres. Je dis, faites-vous-en pas s'il y en a qui n'ont pas levé leur main pendant vos collègues. Voici ce qui se passait en eux. Ils étaient en train de se dire, ah, une voix dans ma tête. J'entends pas de voix dans ma tête, moi. Ben non, voyons. Alors, ça me permet de leur faire réaliser que chacun d'entre nous, on possède un outil merveilleux qui s'appelle un cerveau. Et effectivement, le cerveau, c'est fantastique, mais dès qu'on vient au monde, dès qu'on a une seconde d'existence, déjà dans notre cerveau, il y a 3 équipements standards. Le premier équipement, c'est une immense salle de conseil d'administration. Naturellement, on vient juste de venir au monde, il n'y a pas eu d'élection encore. Tout ce qu'il y a, c'est la grande table ovale et des chaises vides tout le tour. C'est au fur et à mesure qu'on grandit qu'on va élire notre conseil d'administration. Et parmi ce conseil d'administration-là, on peut élire des parents, des grands-parents, un patron, un premier copain, une première copine. On peut même élire un personnage de fiction. Je veux dire, il y en a qui ont Rambo qui parle dans leur tête. Et eux, vaut mieux pas les écœurer. Le deuxième équipement qu'il y a dans ma tête, c'est un écran géant cinémascope Dolby Surround, version 5.3, High Definition. Et quand vous étiez petit, cet écran-là, c'est vous qui le contrôliez, vous pouviez tout projeter dedans. Vous pouviez, par exemple, vous imaginer en pompier, extirpant d'un brasier infernal, de pauvres victimes à peine calcinées. Vous pouviez vous imaginer volant au-dessus de la ville. Quand on est petit, on peut tout projeter. Mais au fur et à mesure qu'on grandit tranquillement cet écran-là, on en confie le contrôle à notre CA. Et lui s'en sert pour nous rendre la vie misérable. Par exemple, Pierre et Ginette. Pierre et Ginette sont ensemble depuis maintenant 6 ans. Ils ont eu des hauts, des bas, mais ces derniers temps, c'est pas pire. Sauf que comme Ginette travaille plus tôt le matin, c'est pas rare que quand Pierre se lève, Ginette est déjà partie. Et c'est ce qui se passe ce matin. Pierre se lève. Ginette est partie. Pierre se dirige tranquillement vers la cafetière quand soudain il réalise que Ginette a laissé un mot sur la porte du frigo. Il faut qu'on parle ce soir. Tout de suite, le CA de Pierre parle une réunion spéciale. Qu'est-ce qui se passe avec Ginette? Et règle générale, la voix que Pierre va entendre le plus distinctement, c'est la voix du membre de son conseil d'administration que l'interprétation la plus catastrophique. T'es floché, mon Pierre. Et au moment où il entend t'es floché, mon Pierre, d'autres membres de son CA cherchent des indices. Par exemple, tu peux entendre notre voix qui dit, tu te rappelles, il y a 2 semaines, elle a dit qu'il y avait un nouveau bureau, ben, c'est lui. Et là, Pierre, sur son écran géant interne, assiste à la scène du baiser. C'est sûr, Ginette, il ne reconnaît pas de problème, mais le nouveau, il ne l'a jamais vu, mais il imagine beau, jeune, riche et en santé. Et il va passer une journée misérable. Le troisième outil que dans votre cerveau, c'est un jardin. On l'appelle le jardin des récriminations. Ça, c'est là que vous plantez tout ce qui vous écœure. Par exemple, imaginons que vous devez compléter un rapport pour midi. Il est 12:05, le rapport n'est pas terminé. Théoriquement, vous devriez avoir terminé, sauf que vous avez un collègue au côté de vous qui parle fort ce matin, ça vous agace, ça vous ralentit. C'est sûr que vous pourriez vous tourner vers le collègue et lui dire, excuse, peux-tu baisser le ton un petit peu, faut que je me concentre, mais au lieu de ça, vous plantez ça dans votre jardin. Et qu'est-ce qui se passe avec ce qu'on plante dans un jardin? Ben, ça pousse. Tellement qu'au bout de 2 semaines, vous allez vous rappeler l'événement et non. Il parlait pas fort, il était méchant. Il voulait saboter votre travail. Alors, la deuxième clé de la résilience, c'est le sens des responsabilités. Parce que, en vertu du fait que vous êtes propriétaire de la boîte crânienne, et en vertu des statuts de règlement qui encadrent votre conseil d'administration interne, vous êtes d'office président ou présidente du conseil. Et chaque fois qu'il y a une petite voix qui tente de vous décourager, vous avez le droit de répondre la phrase magique ta gueule. Par exemple, Pierre, en fait, vous pouvez même jouer aux critiques de cinéma. Quand Pierre assiste à la scène du baiser avec Ginette, il pourrait se dire, moi, j'aurais pas fini ça comme ça. Peut-être que Ginette a gagné la loto. Peut-être que Ginette est finalement enceinte. Et Pierre réaliserait que finalement, son interprétation la plus catastrophique est la moins probable. Peut-être aussi que vous pouvez devenir avocat de la défense. Vous vous rendez au photocopieur, vous réalisez qu'il y a quelqu'un, vous vous dites mentalement, il voudra pas m'aider, ça n'a rien de lui demander. Ben, répondez-vous, OK, je tente le coup. Alors, la capacité de reprendre le contrôle sur ce qui se passe dans votre espace intérieur, c'est la deuxième clé qui va vous permettre de devenir résilient. Et résiliente.
Mmh, oui. Super, c'est déjà bien intéressant. Et donc, il y en a 10, c'est magnifique, on va être bien, bien pourvu avec tout ça alors. Et donc, la troisième clé, qu'est-ce que c'est?
La troisième clé, et là, c'est le fun, parce que dans le fond, notre auditoire aujourd'hui est féminin, et ça s'adresse davantage aux femmes, c'est de cesser de trop vous en mettre sur le dos. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, on a tendance à jouer les martyrs. Tu sais, quelqu'un nous confie un mandat, on dit « OK, je vais finir tard, mais c'est beau. » On ramène ça le lendemain, on dit « J'ai fini à 22 heures. » Non, non, c'est correct. Tu sais, on tente de jouer au martyr, et ça, ça vient d'où? Souvent, ça vient de l'enfance. Tu sais, tout petit, nos parents, pour nous élever, nous ont inculqué des « il faut ». Par exemple, « il faut respecter ceux qui sont en autorité. »« Il faut tendre l'autre joue. » Mais ça sert pendant l'enfance. On devrait, au fur et à mesure qu'on grandit, développer une autre clé de la résilience qui s'appelle le jugement et tranquillement abandonner les « il faut ». C'est sûr, il faut respecter ceux qui sont en autorité, mais uniquement ceux qui le méritent. Il faut tendre l'autre joue, oui, mais il y a des gens qui sont en l'autre joue, qui vont continuer à frapper, c'est beaucoup mieux de se défendre. En fait, il faut s'adapter. Pour cette raison, la troisième clé de la résilience, c'est le jugement. Développer son jugement, c'est acquérir une certaine indépendance et cesser de se référer et de travailler automatiquement en fonction de ce qu'on nous a inculqué quand on était petit. Et un des « il faut » qu'on entend souvent, surtout chez les femmes, c'est « il faut être parfaite en tout ». Et la raison pour laquelle, selon les sociologues, c'est surtout les femmes, c'est que selon eux, c'est relativement peu de temps que les femmes sont sur le marché du travail, et beaucoup d'elles supposent, à tort, que pour mériter ça, il faut être parfaite en tout. Parfaite en carrière, parfaite mère, parfaite ménagère, parfaite compagne, parfaite maîtresse. Mais ça, c'est la clé du burn-out, la perfection n'existe pas dans ce monde. Et se cantonner là-dedans, c'est se diriger vers le burn-out. Alors, pour celles qui ont tendance à viser la perfection, voici des petits trucs. Un, quand on vous confie une tâche, demandez à voir quelque chose qui a été fait auparavant et qui a été satisfaisant. Si on vous demande de compléter un rapport, si vous demandez à voir un qui a été fait dans le passé, vous allez peut-être réaliser que ce que vous auriez livré, c'est de la surqualité. Que vous auriez peut-être mis 10 heures dans une tâche qui finalement va vous en prendre 2 parce que les attentes sont minimales. Alors, assurez-vous de ne pas livrer de la surqualité. Ça mange votre temps. Ensuite, devenez sportive. Intéressez-vous aux vedettes sportives. Vous allez réaliser que la majorité des personnes qu'on a mis au panthéon du sport, ont commis autant d'erreurs que les autres, c'est juste qu'ils sont retournés au bat. Ils sont retournés sur le jeu. Finalement, donnez-vous des congés de ménage. Dimanche, faites pas votre ménage. Et à midi, appelez une amie, dites-lui, « Hey, mon ménage n'est pas fait, viens-tu prendre un café? » Vous allez réaliser que c'est pas la fin du monde d'apprécier l'imperfection qui fait partie de notre vie de tous les jours. La quatrième habitude des personnes résilientes, c'est qu'elles ont cessé de prendre des choses personnelles. Il y a des gens que quand arrive une chose, ils se disent, ils pensent Ces personnes-là pensent que c'est un complot intergalactique dirigé contre eux. Eh bien non, les choses arrivent, le monde change, les cassettes ne reviendront pas. Je vous donne des exemples de gens qui prennent les choses personnelles, je vais vous donner des vérités même. Vous vous levez un matin, vous êtes super de bonne humeur, jusqu'à ce que vous passiez devant votre miroir, parce que en passant devant votre miroir, vous réalisez que pendant la nuit, il vous est poussé comme un bouton au milieu du visage et que ça vous défigure. Eh bien, les gens qui prennent les choses personnelles vont passer une journée misérable. Même si quelqu'un leur parle, même si quelqu'un leur dit des choses importantes, ils n'entendent pas, parce que mentalement, il y a une petite voix intérieure qui leur dit « Ouais, puis t'as checké le bouton. C'est impoli de checker le bouton du monde de même. » Eh bien, là, je sais que ça va être un coup dur pour l'ego, mais les gens se foutent de votre bouton. Les gens ont un bouton, peut-être qu'ils n'ont pas d'en face, ils ont ailleurs, et c'est les leurs qui les préoccupent. Alors, cessez de fantasmer, de vous dire qu'ils parlent de ça autour de la machine à café. Eh bien, non. Arrêtez de prendre des choses personnelles. Autre exemple. Une collègue vous dit, sur l'heure du midi, « Hey, ça te tente-tu de venir manger? Il y a un nouveau restaurant végé pas loin. » Ça ne veut pas dire qu'elle vous trouve obèse. Vous marchez dans un couloir, vous croisez deux collègues, puis pendant qu'ils s'éloignent dans votre dos, vous les entendez rire, ils ne rient pas nécessairement de vous. Pas nécessairement. En fait, la personnalisation, c'est l'habitude de chercher d'un geste et les paroles des autres des éléments susceptibles de vous rabaisser ou de diminuer votre valeur personnelle. Et ça tue ça. La personnalisation vous blesse, vous isole, mine votre énergie, réduit votre résilience. Et pour illustrer ça, tiens, je vais y aller d'un exemple. Parlons de Richard. Richard était heureux. Au fil des ans, il avait peu à peu progressé dans son organisation, il avait atteint le top des échelons salariaux et il avait pu se permettre des petits achats. Comme ça, au fil des ans, il s'était acheté un bungalow, il s'était acheté deux voitures, une conjointe, deux enfants. Et même qu'il y a deux ans, il s'était acheté une piscine hors terre. Une piscine hors terre de 18 pieds, je ne sais pas ce que, à peu près 6 mètres. Et la vie allait bien pour Richard, bien jusqu'à cet été. Cet été maudit où son voisin s'était acheté une piscine hors terre 8 mètres. Mmh. Où Richard a cessé de rire. Il se promenait tout au long des journées avec un regard vitreux, se posant des questions essentielles telles que « Que vaux-je? » ou « Cours-je? » Soir, plus question de rester chez lui, plus question de sortir, il restait dans le salon, regardant par la vitre les voisins parlant sur le trottoir, et une petite voix intérieure lui disait « Il rit de ta piscine. » Tellement qu'au bout d'un mois, Richard était confronté à un problème énorme, soit charger ses cartes de crédit au max, soit tomber dans une profonde dépression. Eh bien, il a chargé ses cartes de crédit. Ah! Vous n'êtes pas le centre du monde. Les gens se foutent de votre piscine. Pour cette raison, la quatrième clé de la résilience, c'est l'objectivité. L'objectivité, c'est la capacité de se voir et de se voir les autres tels qu'ils sont, de ne pas s'écraser en se sous-estimant et de ne pas non plus se surestimer. Alors, assurez-vous que votre perception correspond à la réalité. Laissez-vous pas aveugler par un seul critère. On est des êtres complexes, des êtres multidimensionnel. C'est sûr que si vous regardez toujours sur le facteur où vous êtes perdant, vous allez vous sentir diminué, mais il y en a d'autres. Restez objectif face à un reproche aussi. T'sais, 50% des gens qui font des reproches n'ont pas les compétences professionnelles pour le faire. Alors, avant de prendre un reproche personnel, posez-vous la question, il est qui, lui? Finalement, si vous doutez de vos compétences, faites-les évaluer et lâchez la télévision. Pourquoi lâcher la télévision? C'est parce qu'il y a une autre vérité éternelle qui s'énonce comme suit. Les gens qui habitent dans votre téléviseur, c'est pas du vrai monde. Et je le répète, les gens qui habitent dans votre télé, c'est pas du vrai monde. Hey, ils vivent dans des lofts luxueux, Ils ont des appareils électroménagers en inox. Ils ne travaillent pas. Ils vont jamais à la toilette. Certains, ils sont déjà coiffés, maquillés. Ça se peut pas. Alors, on se compare pas à ça. C'est une recette pour le malheur. Tellement que, au Bhoutan, le Bhoutan qui est un pays au pied de l'Everest, en 1998, au Bhoutan, le roi a permis l'arrivée de la télévision. Il se disait, je vais rendre mon peuple plus heureux. Ce qui a permis à des psychologues sociaux d'aller évaluer le niveau de bonheur des gens avant et après la télévision. Et ce qu'on a réalisé au bout d'un an, c'est que le niveau de bonheur des gens avait diminué. Les deux émissions les plus écoutées étaient à l'époque Dallas et Dynasty. Alors imaginons des gens du Bhoutan qui toutes les soirs regardent des gens, des faux personnages qui vivent dans l'opulence, se dire « Ah, c'est ça la vie, qu'est-ce qu'on est, nous autres? » Alors, les gens qui vivent dans la TV, c'est pas du vrai monde, on se compare pas à ça. La cinquième habitude des personnes résilientes, c'est qu'elles ont cessé de s'en faire, elles ont cessé de nourrir des craintes injustifiées. Et c'est vrai que c'est grave, ça. Moi, j'ai grandi, en fait, je suis né en 1960, puis en 67, mes parents ont divorcé. Puis à l'époque, c'était le début de la mode, tu sais, c'était vraiment le début, là. Eux, c'était des précurseurs. Ce qui fait que mes deux frères ont été envoyés chez des oncles et des tantes, et moi, j'ai été envoyé chez une grand-mère, psychopathe, dans un petit village qui s'appelait l'Avenir. Et parmi ses nombreux travaux, ma grand-mère psychopathe en avait un, elle aimait pas que j'aille jouer dehors. Et elle inventait plein d'histoires pour pas que j'aille jouer dehors. Et un petit peu plus tard, j'ai rencontré un de mes participants lors d'une conférence qui me dit, moi, ma mère voulait pas que je traverse la rue. Alors, pourquoi que je traverse la rue? Elle m'avait dit, va pas à l'autre bord de la rue. Il y a un maniaque qui reste dans la maison l'autre bord. Et elle m'avait expliqué tout ce que les maniaques font, petit gars. Et le participant me dit, aujourd'hui, j'ai 50 ans, et pourtant, chaque fois que je vois une maison jaune, j'angoisse et j'ai la chair de poule. Ça donne absolument rien de contrôler les jeunes par la peur. Et le problème, c'est qu'un petit peu plus tard, ça nous amène à entretenir des craintes injustifiées. Tellement que dans La vie est injuste, j'ai un personnage qui s'appelle Rachel. Et Rachel, un beau matin, prend sa douche et réalise qu'elle a une bosse dans le sein. Tout de suite, imaginons ce qui se passe avec son conseil d'administration intérieure et son écran géant interne. Tout de suite, c'est le mot cancer en néon qui se met à flasher. Poupoum, poupoum, poupoum. Et là, Rachel se dit, oh non, oh non, oh non, il n'est pas question que j'aille le cancer. En fait, je n'irai pas consulter. Comme ça, personne ne va me le dire. Et pendant 3 ans, Rachel ne va pas consulter. Mais au bout de 3 ans, elle se décide. Elle se décide et après une biopsie, le docteur est super content de lui dire « Bravo, tout est beau, vous n'avez pas à vous en faire, c'est un kyste mineur. » Alors, quelle a été la qualité de vie de Rachel pendant 3 ans? On peut penser qu'elle a arrêté de profiter de la vie. On peut penser qu'elle a arrêté de se réaliser. Même si elle avait des projets, même si des idées lui venaient à la tête, probablement qu'elle se disait « À quoi bon, dans le fond, pour le temps qu'il me reste? » C'est sûr que ces peurs-là l'ont isolée. Même si elle était dans une fête avec ses enfants, probablement qu'elle se sentait seule. Et finalement, et là, les recherches le démontrent, ça l'a diminué son espérance de vie. Alors, pour cette raison-là, la cinquième clé de la résilience, c'est le courage. Le courage, ça ne veut pas dire d'avoir peur de rien, ça c'est de la témérité. Le courage, c'est de continuer à poursuivre une action ou une démarche malgré la peur. Ça implique de constater ce qu'on vit actuellement, d'aller vérifier si oui ou non les peurs qu'on entretient sont légitimes ou pas, et ensuite d'agir en conséquence.
OK.
C'est beau, hein?
Oui, c'est magnifique. Je trouve que c'est vraiment très parlant. Ça paraît évident, mais en fait, on fonce dedans toutes et tous, hein, je suppose. Et donc, c'est très important de le dire et de nous rappeler de rester raisonnable, quoi. Et notamment au sujet des peurs ou de le prendre personnel. C'est vraiment des choses qu'on rencontre tous les jours. Hein.
Absolument, et il y a tellement de gens que je rencontre. Je me souviens, j'étais à Montmagny, je tenais une conférence, puis une dame qui m'avoue qu'elle n'avait pas réalisé ses rêves. À 14 ans, elle a dit à ses parents, « Devenez quoi les parents? Je veux devenir... » Je me souviens pas c'était quoi le programme d'études que ça l'impliquait, mais ça l'impliquait qu'elle déménage à Montréal pendant 3 ans pour aller faire ses études. Et là, sa mère s'est jetée sur la table de la cuisine en pleurant, en lui disant, « On va te retrouver dans un sac à poubelle le long de l'autoroute. » Et sérieux, elle n'est jamais partie. Elle n'est jamais partie. Et aujourd'hui, 30 ans plus tard, elle le regrette encore. La peur, c'est effrayant. On ne devrait pas contrôler des enfants avec ça. Ça empêche. Combien d'enfants se sont fait dire « qu'est-ce que les voisins vont penser? » Dans le fond, les voisins, ils s'en foutent.
Oui, clairement.
C'est ça. Mais on se laisse contrôler par des choses qui devraient simplement nous glisser sur le dos, comme sur le dos d'un canard.
Très belle image, en tout cas.
La sixième habitude des personnes résilientes, c'est qu'elles ont appris à faire la paix avec le passé. Et souvent, ça, quand je présente ça en conférence, je présente aux gens une photo qui a été prise en 1972, qui a été prise à Trang Bang, au Vietnam, pendant la guerre du Vietnam, où on voit une jeune fille qui court dans la rue en pleurant et dont les vêtements brûlent sur elle. Et cette jeune fille-là, en fait, cette photo-là a permis la fin de la guerre. En 1972, quand cette photo-là est parue dans le magazine Life, ça a créé un mouvement de révolte aux États-Unis et tranquillement, les Américains ont décidé de quitter Saigon, de quitter le Vietnam. Mais ce qui est le fun, c'est que en 1996, cette jeune fille-là, qui avait littéralement brûlé devant les caméras, habitait au Canada. Elle s'appelle Kim Phuc. Et elle portait naturellement encore les marques des brûlures. Et en 1996, pour commémorer la journée des vétérans aux États-Unis, on l'a invitée. Alors, elle s'est présentée avec des vêtements amples pour cacher naturellement les marques des brûlures. Et en se présentant au micro, elle a dit que si elle se trouvait face au pilote qui avait lancé la bombe, elle lui pardonnerait. Ce que Kim Phuc a dit, c'est que on peut pas refaire l'histoire, mais on peut au moins faire en sorte d'être en paix avec. Et malheureusement, le pilote n'était pas présent cette journée-là, sauf que John Plummer, l'officier qui avait ordonné de bombarder Trang Bang, était présent dans la salle. Il s'est levé, s'est présenté. Kim Phuc lui a ouvert les bras. Plummer en larmes s'est approché et elle l'a étreint. Et un petit peu plus tard au micro, Kim Phuc a dit, on a toujours le choix face à notre passé. Moi, j'ai choisi la réconciliation et ma vie a changé. J'ai cessé d'être une victime. Et effectivement, quand on demande aux gens, qu'est-ce que tu ressens quand tu songes à ton passé, on peut classer les gens dans deux groupes. Il y a des gens qui ressentent des émotions négatives, comme du ressentiment, de la honte ou de la culpabilité. Et il y a des gens qui ressentent des émotions positives, comme la gratitude, le contentement, la fierté, la satisfaction et la sérénité. Mais ce qui est agréable, c'est que la mémoire est malléable. On peut choisir de se retrouver du côté positif des émotions. Et le meilleur outil pour ça, c'est pardonner. Pardonner, c'est accepter de passer l'éponge sur un événement passé afin de rétablir une relation de qualité avec soi ou avec une autre personne. Le refus de pardonner est généralement plus dommageable pour la personne qui refuse de pardonner que pour la personne qui a commis la bévue. Et quelquefois, l'absence, l'incapacité de faire la paix avec notre passé nous empêche de profiter de la vie, nous empêche d'aller de l'avant. Il existe dans les faits 3 types de pardon. Il y a le pardon qu'on demande, excuse-moi. Il y a le pardon qu'on accorde. Oh, fais-toi-en pas, tout est beau. Et le pardon qu'on s'accorde à soi. Et c'est peut-être le plus important parce que pour devenir mature, pour devenir, je fais pour dire pour devenir Dieu, mais non, pour devenir sage, l'être humain n'a qu'une possibilité, c'est par essai et erreur. Tout au long de nos vies, on pose des gestes. Certains gestes sont couronnés de succès. Alors on tire une leçon, on se dit « wow, ça c'est bon, je vais le répéter ». Quelquefois, c'est des erreurs. On tire une leçon, on se dit « ah, ça, c'est pas bon, je le fais plus ». Le problème, c'est que quelquefois, on ne tire pas de leçon et on reste accroché au passé. Par exemple, il y en a qui vont faire des erreurs à 16, 17 ans, ne tireront pas de leçon, vont rester accrochés. Alors, 10, 20, 30 années plus tard, la famille va bien, la carrière va bien, les gens disent « je t'aime » et on est incapable de l'apprécier parce qu'intérieurement, il y a une petite voix qui dit « hein, ils t'aiment, ils ne savent pas ce que tu as fait ». Alors, on tire une leçon et on va de l'avant. D'autant plus que de nombreuses études ont découvert que le fait de pardonner améliore la santé physique et mentale. Ça améliore notre capacité à mobiliser notre réseau. Ça améliore notre capacité à embrigader les gens. Et ça ne veut pas dire obliger ou oublier. Donc, la sixième clé de la résilience, c'est la gratitude. La gratitude, c'est la capacité de ressentir des émotions positives quand on se penche sur notre passé. La septième habitude maintenant des personnes résilientes, c'est de savourer l'instant présent, d'être là, de vivre dans le maintenant, le ici et maintenant. Cette capacité de ne pas traverser leur vie en automate, comme s'ils étaient simplement des figurants dans leur propre vie. Malheureusement, il y a tellement de gens qui, dans leur vie, occupent le siège passager au lieu d'occuper le siège conducteur. Il y a tellement de gens qui se lèvent le matin, qui vont travailler, qui arrivent le soir, qui se font à souper, qui mangent, qui ouvrent la télé, qui ferment la télé, qui vont se coucher, qui se lèvent le lendemain matin. Et pour eux, leur vie, c'est comme le jour de la marmotte. Il y a tellement de gens qui... Combien de fois on se lève après un bon repas, on se lève de table après un bon repas et on n'a aucun souvenir de ce que ça goûtait tellement qu'on n'était pas présent. Alors, la septième habitude des personnes résilientes, c'est d'être présente, de savourer l'instant présent. Et comment on peut développer ça? Dans le premier temps, commencez par recourir à tous vos sens. Vous sortez dehors le matin, il fait beau. Prenez le temps de voir qu'il fait beau, l'air n'a pas la même limpidité. Prenez le temps de sentir qu'il fait beau, l'air n'a pas la même odeur. Prenez le temps de ressentir la chaleur du soleil sur votre peau. Les scientifiques ont trouvé un mot pour cette capacité-là à recourir à tous nos sens. Ils appellent ça « vivre ». Ensuite, partagez cet instant. Vous êtes avec quelqu'un, vous appréciez l'instant, dites-le-lui. C'est agréable d'être avec toi. C'est sûr que si vous n'y avez pas dit depuis 10 ans, il risque de pogner les nerfs. Mais faites-vous-en pas, répétez au besoin. Prenez des photographies mentales. Vous vivez un moment particulièrement agréable. Dites-vous ça, faut que je m'en rappelle. Et faites. Prenez des photographies. Découvrez les diamants qui se cachent dans tous les problèmes qui peuvent se passer chaque jour. Il y a toujours des leçons à en sortir. Il y a toujours des bons coups à en sortir. Et finalement, soyez vous-même. On a découvert, au fil des recherches, que ce qui faisait qu'on était le plus heureux au présent, qu'on appréciait le plus nos journées, c'était l'authenticité, la capacité d'être soi, la capacité de ne pas jouer de rôle, de ne pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre, d'être qui on est au moment où on l'est. Le fait de jouer des rôles, le fait de jouer semblant, de faire semblant, vous bouffe énormément d'énergie. La huitième habitude, déjà la huitième habitude des personnes résilientes, qu'elles anticipent positivement l'avenir. Pourquoi? Là, ça m'amène à vous parler d'une belle émotion qui s'appelle l'optimisme. L'optimisme est une émotion qui nous amène à entreprendre des projets, à nous lancer dans l'action, à les réaliser parce qu'on s'attend à ce que ça fonctionne. C'est une émotion qui nous permet de réaliser que le verre est à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et on peut, selon les recherches, devenir plus optimiste. Parce que quand on demande aux gens « qu'est-ce que tu penses quand tu songes à l'avenir? », on peut vraiment classer les gens en deux groupes. Il y a des gens qui vont sentir de la confiance, de l'espoir, de l'optimisme, de l'exaltation. Ça va être des gens résilients, ça va être des gens plus heureux aussi. Il y a des gens, par contre, qui ressentent de la crainte, du pessimisme et, un sentiment de crise imminente. Et malheureusement, c'est que souvent, quand on ressent des émotions négatives face à l'avenir, la vie va nous donner des choses négatives. Je vous donne deux exemples. Imaginons que, depuis 20 minutes, vous êtes dans une salle d'attente, vous attendez pour passer une entrevue pour un emploi. Au bout de 20 minutes, quelqu'un s'approche de vous, vous demande de l'accompagner, et pendant que vous marchez ensemble, il vous annonce que son patron, qui va vous recevoir en entrevue, a adoré votre CV. Comment va se passer l'entrevue?
À mon avis, ça va être positif.
Ça va être très positif. Hey, vous savez que c'est gagnant à l'avance. Vous allez sourire, vous allez avoir un regard franc, vous allez avoir une bonne poignée de main, vous allez répondre avec enthousiasme et vous allez avoir l'emploi. Deuxième mise en situation, imaginez que vous êtes une femme, je m'apprête à vous présenter à ma conjointe, mais je vous demande d'être très délicate avec elle parce qu'hier j'ai dit que je vous trouvais très jolie et elle n'a vraiment pas apprécié. Comme un peu vu. Mal! Il va y avoir à l'aise, petite poignée de main, regard fuyant, tellement que c'est possible que mon adoré vous regarde en disant, voyons, qu'est-ce qu'elle a, elle? Effectivement, la vie nous amène ce à quoi on s'attend. Alors, si on s'attend au mieux, on obtient mieux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer notre vision de l'avenir? Faut être inclusif, se concentrer sur ce qu'on a plutôt que ce qui manque. Faut trouver des qualités aux gens qui nous entourent. Ça nous permet de nous dire, waouh, l'avenir va être fantastique. Malheureusement, quelquefois, on a tendance à regarder ceux qui nous entourent, nos collègues, par exemple, en regardant ce qui leur manque, en se disant, et que c'est plate qu'elle n'ait pas ça, elle serait aussi bonne que moi. Mais si elle n'a pas ça, elle a quelque chose d'autre. Alors, regardons ce qu'elle a, découvrons les forces qui l'habitent, qui l'animent, parce que grâce à ça, on va être en mesure d'aller plus loin. Améliorer sa vision de l'avenir, c'est également cesser de se faire peur, c'est apprendre à accepter les compliments. Bref, la huitième clé de la résilience, c'est le langage positif. Parce qu'en entretenant un langage positif, on influence la manière dont on interprète les événements qui nous arrivent et on fait grandir notre optimisme. Notre optimisme qui nous permet de devenir à la fois plus résilient et plus heureux. On est déjà rendu à la neuvième habitude des personnes résilientes. La neuvième habitude des personnes résilientes, c'est qu'elles ont appris à déconnecter et à accueillir le stress. Pourquoi? Parce que le stress existe. C'est sûr que quelquefois, on aimerait ne pas le ressentir. Sauf que les scientifiques ont trouvé une seule façon de ne pas ressentir de stress dans une journée, et ça implique d'être mort. Alors, on devrait dire, wow, je suis stressé, je suis en vie. Mais effectivement, il y a des façons de faire face au stress. Et quand on regarde le royaume animal, ben en fait, il y a trois façons. Un, la fuite, se sauver. Effectivement, ça, c'est les petits animaux. Le lièvre, par exemple, qui entend un bruit sec en forêt, va rarement s'étirer en se mettant sur ses deux pattes en se disant, voyons, c'est quoi ça? Il se sauve et se demande qu'il reste en vie. Sauf qu'on n'a pas, en tant qu'être humain, à se sauver. La deuxième option dans le royaume animal face au stress, c'est attaquer. Attaquer, c'est surtout les prédateurs, c'est surtout les grosses bêtes qui s'en prennent. Et effectivement, on pourrait s'en prendre physiquement ou verbalement aux gens qui nous entourent, mais c'est pas la meilleure stratégie. D'autres vont s'immobiliser. Par exemple, le chevreuil qui traverse l'autoroute, qui voit arriver une voiture, rarement va penser à se sauver en se disant, tiens, il faut que je me sauve. À la place, il dit, voyons, c'est quoi ça? Et il reste là, et il se fait frapper. Mais l'être humain a d'autres options. On peut apprendre à réagir. Par exemple, vous pouvez vous recentrer. Fermez les yeux. Mettez vos deux pieds parallèles. Prenez trois bonnes respirations et visualisez à chaque inspiration que l'énergie du sol vous remplit à nouveau. Au bout de 3 respirations, vous allez avoir réoxygéné votre cerveau et les émotions négatives vont être disparues. Vous pouvez également jouer les analystes. Faites semblant que vous n'êtes pas dans la scène que vous vivez. Faites semblant que vous êtes comme la voix hors champ du commentateur à la télé. Le simple fait de jouer les analystes vous éloigne de l'émotion négative. Vous pouvez également vous questionner sur l'émotion ressentie. Et, que ressens-je? Et sur les implications possibles. Non, je ne ferai pas ça. Et finalement, vous pouvez occuper votre esprit à autre chose. Moi, par exemple, avant une conférence, souvent, je vais soit chantonner, ou je vais me réciter le monologue de Don Diego dans le site de Corneille. Je me lance avec « Oh rage, oh désespoir, oh vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Et me suis-je blanchi dans les travaux? Et quand j'arrive à Paz pour me venger en de meilleures mains, juste avant de demander à Rodrigue s'il y a du cœur, ben, les émotions négatives sont parties. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez, si vous voulez, jouer à l'alphabet, vous faites les fleurs, vous partez à A, Azalée, B, Bégonia, jusqu'à Z, Zinnia. Et si à Zinnia, vous êtes encore stressé, faites les animaux, A, Antilope, jusqu'à Z, Zèbre, et ça devrait passer. Bref, la 9e clé de la résilience, c'est la capacité de se contrôler, la capacité d'être au contrôle de ce qui nous arrive et de comment on réagit. Il ne nous reste qu'une habitude. La 10e habitude des personnes résilientes, qu'elles ont appris à élargir leur vie. Et pour illustrer ça, je vais parler d'un monsieur qui s'appelle Viktor Frankl. Viktor Frankl était un psychanalyste autrichien, psychanalyste autrichien juif, juif c'est important là, qui vivait une vie quand même assez agréable. Il s'était marié 6 mois auparavant. Il venait de terminer l'écriture de son nouveau livre. Il s'appelait Le Docteur pour l'âme, Doctor for the Soul. Il venait d'être nommé chef du département des services neurologiques de l'hôpital Rothschild, le seul hôpital pour juifs permis sous l'occupation nazie à Vienne. Bref, sa vie allait plutôt bien. Jusqu'à un soir où on cogne à la porte, c'était la Gestapo qui venait y annoncer qu'il venait de gagner un voyage. Alors, on embarque Victor et son épouse et ses parents sur un train. Ses parents vont être débarqués à Auschwitz où ils vont mourir. Lui et son épouse vont être débarqués à Theresienstadt. Mais de Theresienstadt, on va reprendre son épouse qui va plutôt aller mourir à Bergen-Belsen. Et dès les premiers jours au camp, Victor réalise que la vie au camp, c'est pas l'idéal. La bouffe est médiocre, les activités plates. Par exemple, une des premières activités qu'on fait avec lui, c'est qu'on découvre son manuscrit, un manuscrit qu'il avait caché dans la doublure de son manteau. On le déchire devant lui et on le brûle en riant. Et Victor réalise que, et ça va donner l'idée à un film qui s'appelait La vie est belle. Victor réalise que s'il reste au camp, il va devenir fou. Alors voici ce qu'il se dit. Il dit, je vais faire semblant que je ne suis pas dans un camp de concentration. Je vais faire semblant que je suis dans une expérience. Une expérience où je dois déterminer quelles sont les caractéristiques des gens qui survivent, des gens qui se laissent mourir. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui arrivaient au camp, là, qui décidaient que c'était fini, qui s'assoyaient contre un mur, qui mettaient une couverture sur leur tête, qui pouvaient mourir en 2 jours. Là. À l'époque, il y avait de la fièvre typhoïde sur les trains, c'était pas facile. Alors, Victor s'imagine qu'il a une expérience et il réalise très rapidement que ceux qui vont survivre sont ceux qui ont des projets pour après le camp. Il réalise que ceux qui vont survivre sont ceux qui se disent, tiens, je vais déménager en Amérique. Ceux qui se disent, je vais fonder ou créer telle entreprise. Et même lui se dit que ce qui lui a permis de passer au travers, c'était le fait qu'il se voyait déjà à l'avance, écrivant un livre sur le sujet et donnant des conférences sur ça. Et effectivement, il a écrit le livre qui s'est appelé Man's Search for Meaning, l'homme à la recherche du sens. Il a donné des conférences, il a créé un gros segment de la psychothérapie qui s'appelait la logothérapie. Et carrément ce qu'il dit dans son livre « Man's Search for Meaning », c'est que pour devenir résilient, il faut donner un sens à sa vie. Il faut avoir une raison de se lever chaque matin. Il faut avoir des objectifs à long terme. Et pour se trouver des objectifs, pour se trouver des passions, il faut arrêter de se regarder le nombril. C'est pas là qu'on va trouver ça. Il faut plutôt appréhender le monde avec soif, avec faim. Il faut changer d'optique, d'attitude. Le matin, au lieu de se dire « Ouais, la journée va être longue », il faut plutôt penser avec « Me revoici, univers. Qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui? » Ah ouais. Alors, élargir notre vie, c'est s'ouvrir aux autres, les laisser s'ouvrir à nous. C'est continuer d'apprendre. C'est aller à la bibliothèque, feuilleter des livres qui ne nous intéresseraient peut-être pas, mais au fil des recherches, on va rapidement trouver des éléments qui vont nous passionner, qui vont nous faire dire « Waouh, c'est à ça que je dois me concentrer, que je dois me consacrer. » Moi, ça m'est arrivé en 2003, quand, après avoir perdu un emploi, après avoir perdu un couple, j'ai réalisé, après m'être inscrit dans un séminaire aux États-Unis qui s'appelait « The Authentic Happiness Coaching Program », que dans le fond, c'était la psychologie positive qui m'ouvrait tout un nouveau pan, toute une nouvelle fenêtre sur le monde. Alors, continuez d'apprendre, prenez des risques, tenez-vous au courant de l'actualité, retrouvez le plaisir de l'implication communautaire. Bref, la dixième clé de la résilience, c'est la curiosité, la capacité d'appréhender le monde avec soif, avec faim, la capacité de regarder l'univers en disant « Qu'est-ce que tu as pour moi? Parce que moi, je suis prêt. » Ou « Je suis prêt. » Bref, dix habitudes qui vont vous permettre de devenir plus résiliente, dix habitudes qui vont vous permettre de faire face au monde tel qu'il est, mais en tirant le maximum.
Ok, magnifique. Et donc, tout ça, ça va nous permettre d'être plus résilient, de mieux rebondir et donc de mieux faire face aux difficultés de la vie quotidienne.
Exactement. En fait, il y a cinq avantages au fait de devenir plus résilient. Le premier, c'est que vous vous apitoirez moins sur votre sort parce que c'est sûr, des chocs de la vie, ça existe. Des chocs de la vie, ça survient. Mais les gens peu résilients décident que c'est la fin du monde, vont dire « la vie est injuste » et ils s'assoient sur le bord du trottoir et ils font plus rien. Les gens résilients, eux, vont dire « ok, c'est arrivé, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Le deuxième avantage, c'est que vous retrouverez plus rapidement votre équilibre. Parce que c'est sûr qu'après un choc de la vie, c'est normal de vivre une période de deuil. Mais pour les personnes résilientes, cette période-là est plus courte. Elle se passe plus rapidement. Troisième avantage, et les recherches le démontrent, vous allez augmenter votre espérance de vie. Quatrième avantage, vous allez regarder l'avenir avec une attitude positive, ce qui va vous amener à vous lancer dans des projets, à réaliser des choses, à faire une différence. Et finalement, vous allez devenir une force pour votre organisation, je dirais même pour votre collectivité. Vous serez quelqu'un vers qui on se tourne quand on a des projets, vers qui on se tourne quand on a besoin d'un max d'énergie. Bref, devenir plus résilient, c'est possible. Ça demande simplement des efforts, ça demande une certaine discipline, mais les fruits de ça sont tellement énormes que ces efforts-là sont bien peu de choses.
Magnifique. Très bien, ben merci Alain pour toutes ces belles clés qui seront vraiment indispensables, je pense. Est-ce que pour ceux qui voudraient aller plus loin sur ce sujet de la résilience, donc ils peuvent acquérir votre livre, c'est ça?
Absolument, en fait j'ai un livre et j'ai même un DVD. La conférence existe, elle s'appelle « La vie est injuste et alors ?» C'est tout disponible sur mon site web, le www.alainsanson.net.
D'accord. Magnifique. Donc là-bas, on peut trouver tout ce qu'on veut si on veut en savoir plus sur vous.
Absolument. Ça me fera plaisir de répondre à vos moindres demandes.
D'accord, parfait. Alors, donc, je dis à nos auditrices qu'elles peuvent poser leurs questions, faire part de leurs remarques, éventuellement témoigner, si elles ont des témoignages à nous partager, sur le site en dessous de cette conférence, donc dans la page des commentaires. Et ben, si elles veulent poser des questions, je demande, et là, justement, Alain, je le signale, que à l'occasion, si vous voulez, vous pouvez venir vous aussi voir le site Réussir au féminin, et s'il y a des questions qui, pour lesquelles vous avez des réponses à donner, ben, je vous invite à venir garder le contact avec les auditrices de Réussir au féminin, et qui peuvent d'ailleurs donc aller aussi en savoir plus sur vous sur votre site www.alainsanson.net.
Un grand plaisir.
Très bien, mais écoutez, je vous remercie beaucoup et merci pour cette belle conférence.
À la prochaine, au revoir.
Oui, au revoir.